En Éthiopie, le commissaire européen Janez Lenarchik a appelé ce mardi à Addis Abeba le gouvernement éthiopien à lever sans délai les restrictions pesant sur la région du Tigré, notamment sur la fourniture de carburant dont la pénurie handicape la distribution d'aide humanitaire. À Mekele, la capitale régionale où il s'est rendu mardi, le commissaire, donc chargé de la gestion des crises, a constaté une amélioration dans l'acheminement de l'aide humanitaire vers le Tigré, dont le gouvernement éthiopien a autorisé donc début avril, après 3 mois d'interruption, et dans la foulée de l'annonce d'une trêve, la reprise du transport par la route. Mais il faut faire plus, a-t-il ajouté. Nous sommes dans une situation où les entrepôts de Mekele sont pleins de nourriture, mais où les gens des campagnes ont toujours faim car le manque de carburant empêche la distribution hors de la ville. Tout en nous réjouissant de l'amélioration réelle sur place, nous continuons d'insister sur les mesures additionnelles qui doivent être prises et permettront in fine la normalisation totale des relations entre l'Union européenne et l'Éthiopie, ce que nous souhaitons, a-t-il déclaré. L'Union européenne a suspendu en décembre 2020, 1 mois après le début du conflit, une aide budgétaire de 90 millions d'euros à l'Éthiopie. Il faut lever les restrictions, particulièrement sur la fourniture de carburant. Plus de carburant est nécessaire, car sans carburant, l'aide alimentaire qui arrive à Mekele ne peut atteindre les zones rurales, là où il y a le plus besoin, et les hôpitaux de la région privés d'électricité ne peuvent faire tourner leurs générateurs. Électricité, services bancaires et télécommunications devraient aussi être rétablis sans délai car l'absence de ces services aggrave la situation humanitaire dans la région, a-t-il réclamé. La crainte qu'ils soient détournés à des fins militaires ne doit pas être une excuse pour maintenir le blocus sur la fourniture de carburant ou des services de base, a-t-il estimé, assurant que des mécanismes de surveillance pouvait être mise en place. Je ne comprends pas le raisonnement derrière le maintien du blocus sur les services bancaires, l'électricité ou les télécommunications, particulièrement depuis l'annonce de la trêve, globalement respectée, a-t-il insisté. Le conflit du Tigré a commencé en novembre 2020 quand les rebelles du TPLF ont attaqué une base militaire fédérale dans la région. Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, y a envoyé l'armée pour déloger les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré qui n'avait qu'un seul but, c'était de marcher sur Addis Abeba. Mi-juin, Abiy Ahmed s'est dit pour la première fois ouvert à des négociations avec le TPLF qui a repris depuis une contre-offensive courant 2021 pour le contrôle de l'essentiel du Tigré et la réinstauration de la sécurité. Car en effet, il est important de le rappeler, si les aides humanitaires ont du mal à être acheminées, c'est avant tout à cause des rebelles du TPLF qui bloquent l'acheminement des aides vers la population du Tigré. Mais les rebelles sont en net recul face à l'armée fédérale, ce qui fait que la situation se débloque et permet aux aides humanitaires d'atteindre la région du Tigré. La République démocratique du Congo prêt à en découdre avec le Rwanda. Au moins 13 civils ont été tués dans des affrontements armés à Rutshuru dans l'est de la RDC, comme l'a annoncé jeudi l'ONU, affirmant que les interventions humanitaires ont été entravées par la persistance des violences dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Citant les autorités locales, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé la mort de 13 habitants dans l'est de la RDC après de nouveaux affrontements entre l'armée et les rebelles du M23. Parmi ces 13 civils tués entre le 19 et le 21 juin dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, figurent 4 enfants, précise l'OCHA. Depuis le mois de mars, plus de 158 000 personnes ont dû fuir les zones de conflit avec des civils pris en étau entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises. Plusieurs villages du territoire de Rutshuru ont été quasiment vidés de leurs habitants, dont une partie ont fui vers l'Ouganda, comme l'a ajouté l'ONU. Au moins 17 000 déplacés sont arrivés depuis mars dernier à Rutshuru Centre et dans la localité toute proche de Kiwanja, où ils ont logé donc dans des écoles, des stades, des familles d'accueil. Parmi les nouvelles arrivées, donc environ 3000 personnes déplacées, dont plus de 1000 personnes arrivées depuis le 12 juin, vivent dans une forte promiscuité au stade de Rugago, à Rutshuru Centre, comme l'a ajouté l'agence onusienne. L'agence déplore que les opérations humanitaires soient entravées par la persistance des violences. Les interventions humanitaires se poursuivent bien que les ressources financières et l'accès humanitaire soient limités, ont-ils insisté. Et donc l'accès aux populations vulnérables dans la zone de santé de Rouagouba donc demeure particulièrement difficile à cause de la poursuite des combats qui ont entraîné la fermeture de la route reliant Bounagana à Bouraï depuis le 12 juin. Dans le territoire voisin de Niragongo, donc où de violents combats avaient opposé l'armée au M23 fin mai, la situation sécuritaire reste volatile en dépit d'une accalmie relative qui s'observe sur l'ensemble des groupements de Kibumba et Bouumba depuis le 26 mai. Depuis mars, l'agence onusienne affirme avoir compté au moins 158 000 déplacés dans les territoires de Rutshuru et Nirangongo à la suite des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 qui exigent du gouvernement congolais l'application des accords conclus en 2013. Les députés provinciaux de la RDC se sont prononcés ce mardi sur l'insécurité dans l'est de la RDC à propos de l'agression du Rwanda à travers le M23. Ils ont fait une déclaration à l'issue d'une rencontre de réflexion tenue à Kinshasa autour de cette situation. Dans la déclaration, ils affirment que la RDC est agressée, que l'agresseur est identifié. Pour eux, il faut que la guerre soit déclarée avec le Rwanda pour pacifier la partie est du pays. Nos forces de défense et de sécurité sont composées des hommes et des femmes aguerris, capables de bouter donc l'ennemi hors donc du territoire national et éviter à notre population les atrocités qui relèvent des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. N'était-il pas déclaré, le Congo est un et restera indivisible, même s'il faut conclure le pacte avec le diable pour préserver la paix et l'intégrité territoriale de la RDC, nous le ferons. La situation que connaît la RDC donc, nous oblige en tant qu'élus du peuple à vous demander donc de procéder immédiatement à la rupture des relations diplomatiques ainsi que l'annulation des accords de toute nature signés avec le Rwanda et de déclarer la guerre contre celui-ci. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la paix, plusieurs négociations ont été entreprises et accords signés avec le Rwanda, mais hélas, ce dernier n'a jamais respecté ses engagements. La paix se gagne et ne se négocie pas. Ainsi donc, le collectif de députés provinciaux de la RDC apporte son soutien sans faille à votre autorité, aux institutions de la République, ainsi qu'aux forces armées de la RDC et à la police nationale congolaise. Pour nous, donc, si les normes internationales régissant la guerre les permettaient, nous demanderions Votre Excellence d'autoriser le combat au corps à corps avec le Rwanda, comme l'a déclaré le président du collectif de députés provinciaux de la RDC élu du territoire de Bulungu. Ces députés invitent la communauté internationale à se désolidariser du Rwanda pour ses crimes sur le sol congolais et aux multinationales opérant frauduleusement à l'Est, notamment dans le domaine minier avec le Rwanda, de mettre un terme à cette pratique. À la communauté internationale, nous demandons de se désolidariser donc du Rwanda, agresseur de la RDC et auteur de plusieurs crimes imprescriptibles et étouffé dans l'œuf son plan machiavélique de balkaniser dont le décor planté ne fait plus l'ombre de doute. Aux multinationales œuvrant dans le secteur minier et partenaires du Rwanda, les élus provinciaux de la RDC vous exhortent de mettre un terme à l'exploitation illicite des minerais teintés du sang congolais et vous invite par conséquent à venir par les voies officielles et légales négocier avec la RDC propriétaire des 10 minerais pour une exploitation normale en termes gagnant-gagnant, exigent les députés provinciaux de la RDC. Ils exhortent la population à soutenir les FARC au front donc pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Les rebelles du M23 ont annoncé lundi soir la réouverture de la frontière à Bounagana, ville de l'Est de la RDC dont ils ont le contrôle depuis une semaine maintenant. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le porte-parole du M23 devant la guérite du poste frontière de Bounagana annonce sa réouverture. Cette réouverture intervient une semaine après que le M23 se soit emparé de la ville frontalière entre la RDC et l'Ouganda. Le porte-parole a en outre indiqué que les population commence à revenir et qu'il les protégerait comme il se doit. Les autorités du Nord Kivu ont tout de suite réagi en interdisant le trafic commercial via ce poste frontière. Dans un communiqué lundi soir, le gouvernement militaire du Nord Kivu met en garde les commerçants et les commissaires en douane qu'il est interdit d'importer ou d'exporter des marchandises via le frontalier de Bunagana. Toute personne dont la marchandise entrera par ce poste sera considérée comme fraudeur et collaborateur de l'ennemi, a-t-il indiqué. Cette mesure sera levée une fois que Bunagana aura été reprise par l'armée congolaise. Les autorités du Nord Kivu espèrent couper les forces rebelles de tout revenu à travers cette mesure. Bunagana est un point de passage pour les commerçants de la région qui opère entre l'Ouganda et la RDC. Selon la Direction générale des douanes, ce poste frontière génère plusieurs dizaines de milliers de dollars de recettes douanières par mois. Les combats se poursuivent entre le M23 et l'armée congolaise. Les FARC se sont déplacés plus à l'ouest, vers la ville de Rutshuru. Le Congo devrait voir arriver des troupes en renfort dans les prochains jours après l'approbation des chefs d'État de l'Afrique de l'Est pour le déploiement de la région, donc de la force régionale dans l'est du pays. Au Mali, l'état-major général des armées a, dans un communiqué publié ce mardi, confirmé que des frappes aériennes ont ciblé des plots logistiques et sanctuaires terroristes documentés de la Katiba du Massina d'Amadou Koufa dans les secteurs de Djéné, Ténénkou, Ségué et dans la forêt de Sama dans le cercle du Bankass. Cela quelques jours après le massacre des civils à Dialassagou, Dianweli et Dessagou dans le cercle de Bankass dans la région de Bandiagara, au centre du pays. Les forces armées maliennes ont effectué du lundi au mercredi 22 juin des opérations aériennes ciblant des plots logistiques et sanctuaires terroristes documentés donc de la Katiba Massina d'Amadou Koufa dans les secteurs de Djéné, Ténénkou, Ségué et la forêt de Sama dans le cercle de Bankass, comme l'a indiqué l'état-major général des armées dans un communiqué. Dans sa note, la plus grande hiérarchie de l'armée rappelle que ces frappes aériennes s'inscrivent dans le cadre des opérations de protection des populations et de leurs biens, et ces actions sont consécutives à des efforts de recherche et de précision des renseignements sur les auteurs des attaques terroristes contre les populations civiles dans le cercle de Bankass le 18 juin et sous le leadership de la Katiba Massina, comme l'a déclaré le document de la hiérarchie militaire. Cependant, ces groupes terroristes soumis, donc selon le communiqué de l'état-major des armées, depuis plusieurs mois à une forte pression des forces armées maliennes, s'attaquent désormais aux populations civiles. Ces groupes terroristes ont adapté leur mode d'action et orienté désormais leurs attaques lâches contre les cibles molles et les civils désarmés, au mépris des lois de la République du Mali, en violation de tous les droits humains des populations et de toutes les règles relatives au droit international humanitaire, regrette l'état-major dans son document. Par ailleurs, l'armée malienne déclare dans sa note qu'elle continuera la recherche de tous les responsables de ces crimes inhumains pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Les forces armées maliennes rassurent aussi que la traque des assaillants continue dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi. Les FAMA assureront pleinement leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et leurs biens. L'état-major général des armées rappelle que les FAMA restent engagées et respectueuses des strictes règles d'engagement qui encadrent leurs actions, souligne l'état-major général des armées. Rappelons que 132 civils ont trouvé la mort en fin de semaine dernière à Dialassagou, de Dianweli et Dessagou dans le cercle de Bankass, région de Bandiagara. Un vrai carnage. Outre ces morts, plusieurs biens matériels ont été incendiés également au même moment à Dialassagou par les forces du mal. D'un autre côté, l'ONU en prend également pour son grade de nouveau 8 casques bleus de la mission des Nations Unies au Mali, donc la MINUSMA, ont été blessés jeudi dans l'explosion d'une mine dans la région de Tombouctou en proie à des violences de groupes terroristes, comme l'a annoncé l'ONU. Les blessés font partie du contingent burkinabé, cette fois-ci de la MINUSMA, donc comme l'a précisé un responsable de l'ONU sous couvert de l'anonymat. Une patrouille de sécurisation des casques bleus a heurté une mine, un engin explosif, aujourd'hui vers 13h aux environs de Ber, à une cinquantaine de kilomètres de Tombouctou, a tweeté le porte-parole de la MINUSMA. Les 8 soldats de la paix ont été évacués, a-t-il ajouté. Enjoint, quatre soldats, des casques bleus, ont été tués par des engins explosifs, l'une des armes de prédilection des terroristes contre la MINUSMA et les forces maliennes. L'un d'entre eux est mort dimanche à Kidal. Et avec ses quelque 13 000 soldats, la MINUSMA créée en 2013 pour soutenir le processus politique malien et la mission de maintien de la paix de l'ONU ayant subi le plus de pertes humaines et des négociations sont actuellement menées pour renouveler son mandat. Au total, 175 casques bleus sont morts dans des actes hostiles au Mali. Et un récent rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, note que la région de Tombouctou a connu un calme relatif ces tout derniers mois, alors que le centre du pays continuait à subir un nouveau niveau élevé de violence et que la région dite des trois frontières avec le Niger et le Burkina Faso donc accusé une importante détérioration sécuritaire. Le Mali a connu au cours du week-end un de ses pires carnages de civils, qui est aussi la dernière tuerie en date d'une série en cours à travers le Sahel. Et selon le gouvernement, 132 civils ont été tués par les terroristes à Dialassagou et dans deux localités environnantes du centre du pays. Le Mali est plongé dans une profonde crise sécuritaire, politique et humanitaire depuis le déclenchement des insurrections indépendantistes et terroristes en 2012. La propagation terroriste a gagné du terrain avec l'arrivée des forces militaires françaises en 2013. La situation sécuritaire s'améliore nettement au Mali, mais le massacre des 132 civils tout de suite après le retrait de Barkhane de Menaka est mis en avant dans les médias mainstream, cachant par la même occasion les avancées des FAMA dans le processus de sécurisation du pays.
Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, effectue jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022 une visite officielle en Côte d'Ivoire. Le président Bazoum arrivera dans l'après-midi à Abidjan. Il aura des entretiens avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il est également annoncé la signature d'accords bilatéraux et un point de presse conjoint des chefs d'État. Le vendredi 24 juin 2022, le président Mohamed Bazoum sera reçu au district autonome d'Abidjan et visitera les installations de la compagnie ivoirienne de la production d'électricité. Il aura par la suite une rencontre avec la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Niger ambitionnent de dynamiser les échanges à travers l'identification de secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, les transports ainsi que la promotion des investissements dans les deux pays. Le port de Douala rénove son terminal à conteneurs en vue d'améliorer la fluidité et la sécurité des opérations. Le port autonome de Douala a lancé les travaux de remise à niveau de son terminal à conteneurs. Les travaux devront durer 2 mois pour un coût de 473 millions de francs CFA. La superficie concernée par la rénovation est de 10 000 m². Après cela, la régie du terminal à conteneurs entamera de nouveaux travaux sur une superficie de 38 000 m² afin de rénover au total 48 000 m². L'objectif est d'améliorer la fluidité et la sécurité des opérations sur le parc. Par ailleurs, il est prévu au terme de ces travaux de mise à niveau la construction de nouveaux quais et un nouveau yard, ce qui permettra au terminal d'accueillir un volume plus important de marchandises. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a salué jeudi les entreprises chinoises pour leurs investissements dans ce pays d'Afrique australe. Le président Mnangagwa s'exprimait à l'issue d'une visite de la Sino-Zimbabwe Cement Company, cimenterie basée à Gueveru, dont il a salué l'expansion des opérations au Zimbabwe. « Je salue les investisseurs de la République populaire de Chine, ici représentés par la Sino-Zimbabwe Cement Company, pour leurs investissements au Zimbabwe. Cette cimenterie, qui fonctionne actuellement à 90% de ses capacités, est le troisième plus important producteur de ciment du Zimbabwe. Le président zimbabwéen a appelé cette entreprise à continuer de profiter de l'essor de l'industrie du bâtiment zimbabwéenne pour développer ses activités. Plusieurs secteurs de l'économie du pays connaissent une croissance, dont le secteur manufacturier avec une utilisation de la capacité s'élevant actuellement à 75%. L'Afrique du Sud envisage d'investir 375 millions de dollars dans la modernisation de 6 postes frontaliers. Le gouvernement sud-africain va lancer un appel d'offres pour un projet de rénovation et de modernisation de 6 postes frontaliers du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministre sud-africain de l'Intérieur, Aaron Motsoaledi, interrogé par le site d'information Maniweb. Au total, ce sont 375 millions de dollars qui seront dégagés pour l'opération. Celle-ci vise les 6 postes frontaliers les plus fréquentés du pays. L'objectif des travaux sera de fluidifier le trafic au niveau des postes en les dotant d'infrastructures appropriées en vue de les préparer au déploiement effectif de la zone de libre-échange économique africaine qui est censée doper le commerce intra-africain.